au chapitre, au verset 19 du chapitre 25. Bien, si je me souviens bien la dernière fois, et vous avez dit d'ailleurs, la dernière fois, c'était la première fois qu'on a fait cours de paracha, hein? C'est la deuxième déjà. La dernière fois, nous avons surtout étudié l'expression qui est employée par la Torah au chapitre 14, si je me souviens bien, de Abraham et Ivri. Hein? Et nous avons surtout analysé les interprétations des Hébreux en exil dans la civilisation de Orcasdim et l'identité araméenne. C'est bien cela? Okay. Et puis je pense qu'il y a eu dans les noms de parenthèses qui fait qu'on n'a pas fait beaucoup de textes. C'est bien ça aussi. Okay. Bon, alors, cette fois-ci, on va essayer de faire un peu de texte. Et puis, si vous avez des questions, de la dernière demi-heure, on essaiera de les écouter. Alors, comme nous n'avons pas eu l'étude des sidrons depuis le début de Bereshit, et en particulier depuis le début de l'histoire des patriarches, je suis quand même obligé d'introduire tous ces récits chaque fois par quelques petites introductions. Je vais en rappeler une. Que je me proposais d'ailleurs d'analyser la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps. Et vous arrivez quand même à m'entendre, moi je m'entends. Ça va? C'est le fait que vous avez remarqué déjà par vous-même que tout au long du déroulement du récit, de toute l'histoire d'Abraham, c'est vrai d'ailleurs avant l'histoire d'Abraham, ce sera vrai après l'histoire des patriarches, mais c'est très central pendant l'histoire des patriarches et avant. Et il y a un récit qui nous enseigne l'engendrement de l'identité d'Israël. Et c'est d'ailleurs le titre de la paracha de cette semaine, Toldot, Toladot, à l'état absolu, grammatical, de l'engendrement. Et une des grandes lectures qui apparaît, c'est que le personnage principal à chacune des trois générations, Abraham, Isaac, Jacob, et encore une fois en parenthèse, ce que je vais essayer de formuler comme principe de lecture, veut que l'ensemble des récits, et évidemment du livre de Bereshit, du livre de la Genèse, mais de l'ensemble des récits historiques de toute la Bible, c'est que l'histoire d'Israël est accompagnée de ce que je pourrais appeler, peu importe d'ailleurs le terme en français, une contre-histoire. Et accompagne Abraham, d'autres personnages qui sont parallèles à son histoire, accompagne Isaac, d'autres personnages qui sont parallèles à son histoire, et ainsi pour Jacob. Nous avons là deux points à mettre en évidence. D'abord, pourquoi il a fallu trois générations pour que l'identité d'Israël apparaisse. En tout cas, si on pourra toucher complètement ce sujet aujourd'hui, enfin, c'est un des principes de ligne de lecture qui nous accompagnera aussi. On pourrait poser la question de la manière suivante. Il serait peut-être plus vraisemblable, on se serait attendu à ce que le peuple d'Israël, dans son identité fondamentale et profonde, soit fondé par un ancêtre, par un engendreur, par un ancêtre, par un patriarche. On est tellement familier, ça je le répéterai souvent, vous avez dû souvent l'expérimenter par vous-même, on est tellement familier à ce récit, parce qu'on le reprend chaque année, depuis 3400 ans, que ça nous semble aller de soi, qu'il y a des données de lecture qui nous semblent aller de soi, mais du point de vue de l'étude, il faut mettre en évidence les questions que cela pose. Donc première question, pourquoi il a fallu trois étapes, pourquoi il a fallu trois patriarches? Il y a différents ordres de réponse, il y a différents niveaux de lecture, j'essaierai d'en suivre un en particulier au moins dans les analyses que nous aurons dans le conflit entre Ésaü et Jacob qui fait le centre de la paracha de cette semaine. Il me semble vous avoir dit la dernière fois ou celle d'avant que ce serait bien que vous prépariez au moins la lecture simple du texte avant l'étude, mais je pense que au moins grosso modo le contenu du récit vous est familier quand même. Et tout cela, déjà ce premier principe s'enracine à l'analyse de la dernière fois, qui est que Abraham, lorsqu'il s'appelait encore Abraham, et qu'il était à Ur-Kasdim, dans la filiation de Mésopotamie, était d'identité araméenne. Je ne sais pas si vous avez cité la référence du Talmud à ce sujet, c'est à la fin du premier chapitre de l'Isoté de Brachot, où le Talmud définit le nom Abraham, Aleph Bet Resh Mem, comme étant Av le Aram. Je vous l'avais cité? Oui. Et puis, il arrive dans le pays qui est désigné par le texte, d'abord comme le pays de Canaan, qui reprendra son nom de pays d'Israël assez rapidement, si arriva avec cette identité à la mienne, qui est une sorte de, je vais dire de moins un peu dur, mais je crois que c'est nécessaire, une sorte de clipa. D'ailleurs, ce sont les termes qu'emploie le commentateur, de clipa, d'écorce, un peu à la manière dont le fruit est à la fois protégé, mais caché par sa propre écorce. La fonction de l'écorce, ça on l'étudiera dans l'introduction à la Kabbalah, un mardi soir peut-être, si on y arrive, mais déjà l'idée est importante. C'est une sorte de gang, comme je t'ai dit la semaine dernière, qui accompagne l'identité hébraïque cachée, enfouie, depuis des siècles, qui elle se prépare à travers Ever, l'ancêtre d'Abraham, qui va donner son nom à la lignée des Hébreux, mais aussi à travers Shem, l'ancêtre de Ever, à travers Chet, l'ancêtre de Shem, à travers Noah, c'est-à-dire, en fin de compte, à travers Adam Harishon, cette identité hébraïque qui se prépare, qui va être véhicule de la prophétie, de la capacité prophétique, et il est nécessaire que cette clipa soit évacuée, je ne sais pas comment dire, mais qu'on se débarrasse et épurée. Et alors, une des réponses est que deux étapes seront nécessaires, parce qu'il y a une clipa extérieure, une clipa chitsonite, et une clipa intérieure, une clipa primite. Vous avez là déjà la structure de ces deux premières étapes. Abraham est, si j'ose dire, séparé Ishmael. C'est la première clipa de Aram qui part, la clipa chitsonite, extérieure. Et ensuite, de façon plus intérieure, la deuxième clipa primite intérieure va être séparée avec Esa. Nous avons donc un processus, Esaïe. Nous avons donc un processus de sélection d'identité, comme je dis souvent, et qui est un processus de libération de l'identité hébraïque qui était en écorce, si j'ose dire, dans sa langue araméenne. Et ce n'est qu'à la troisième étape où vraiment on va se mesurer à l'araméen en tant que tel, c'est Jacob Laban. Laban est appelé, ça va appeler Escalité, Laban à Aramie, dans notre texte. C'est bien clair. Donc, une première approche du problème, c'est de comprendre pourquoi, enfin, je ne sais pas comment dire pourquoi, mais enfin, ça nous aide à lire le récit qui commence dans la paracha de la semaine, que de Isaac et de Rebecca, nous nous situons déjà à la deuxième étape, la première étant la séparation d'Ishmaël de Isaac, Isaac et Rebecca vont avoir deux enfants jumeaux, et il va devenir nécessaire de séparer l'un de l'autre. C'est-à-dire, cette indication que l'enfant de Yitzhak et de Rebecca est en réalité deux jumeaux, se relie à l'indication qu'il s'agit là de la clipa primite intérieure qu'il est nécessaire de séparer. Dans l'histoire générale, ce schéma de l'accompagnateur de l'identité des patriarches et qui s'instaure, qui s'érige en rivalité, nous allons le retrouver très facilement par le diagnostic de deux grandes rivalités, elles ne sont pas les seules, mais de deux grandes rivalités qu'Israël a connues à travers l'histoire. La rivalité à travers Ishmaël, c'est bien évidemment l'islam, et la rivalité à travers Esav, c'est la chrétienté. Ceci est moins évident, mais j'essaierai de vous montrer dans le texte, au moment où on arrivera dans la rivalité. C'est-à-dire, ceci est moins évident, moins familier. Mais en tout cas, c'est très familier aux sources traditionnelles. Esav, ou Edom, et Edom, c'est la civilisation romaine, qui en fin de compte a donné le christianisme. Vous voyez que nous avons là affaire à deux relations de nature différente. Effectivement, la relation de rivalité, si j'ose dire, entre Ishmaël et Yitzhak est une relation d'extériorité. Ishmaël se situe vraiment comme identité extérieure à celle d'Israël venant de Yitzhak, alors que la relation d'extériorité, pour employer ce terme, entre Jacob et Esaü, Esav et Yaakov, est intérieure et beaucoup plus intime. Et tout se passe comme si Esaü et Jacob, sortis de la même matrice, vont avoir entre eux un problème de revendication d'identité beaucoup plus proximal, je vais dire beaucoup plus proche, beaucoup plus intérieur, que le problème de la rivalité Ishmaël-Yitzhak. Vous reconnaissez dans l'histoire la nature du conflit entre la chrétienté et Israël, qui est plus intérieure, semble-t-il, que celle de la rivalité entre Ishmaël et Israël. Vous êtes clair jusque-là? En fait, le schéma est un peu plus général. C'est-à-dire, nous avons à chaque étape à chaque grande génération, deux sortes de personnages qui accompagnent l'histoire des patriarches. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est l'usine d'un livre ouvert dans l'histoire des patriarches, mais ce principe est tout autant valable de façon déjà clandestine, avant la naissance d'Abraham, avant le fait que cette identité hébraïque sorte au jour, comme on dit en hébreu, se dévoile, et puis cela continue après l'histoire des patriarches. En fait, il y a une première série de personnages, je ne sais pas si je l'ai cité cette année, mais je le rappelle pour ceux qui n'ont pas ce schéma en tête, une première série de personnages qui sont des approximations d'identité à chaque étape de l'émergence d'identité d'Israël et qui s'érigent en rivalité. Ainsi, à la première génération, Abraham, l'approximation d'identité, c'est Lot, dont vous rappelez le récit. Lot accompagne Abraham, mais pendant un long chemin, pendant un long temps du chemin, ils se ressemblent au point qu'il y a un morceau de verset qui indique cela dans l'expression qui est Anachim Achim Anachmi. Lorsqu'Abraham va argumenter le fait qu'il doit se séparer, il emploie l'expression car nous sommes des hommes frères. En fait, ils ne sont pas du tout frères vraiment du point de vue de l'état civil, l'un est l'oncle et l'autre est le neveu. Mais le Midrash va tout de suite expliquer, nous nous ressemblons comme des frères. Lorsque l'on voit l'un, on croit voir l'autre. Mais en réalité, ce n'est qu'une apparence extérieure, et du point de vue d'une identité profonde, il y a une différence radicale. L'autre ressemble à Abraham, il aurait pu avoir le même cheminement, la même histoire, la même identification, il se serait fondu dans l'identité de la descendance d'Abraham, mais finalement, cette approximation d'identité reste asymptote à son idéal, et elle s'érige, elle fait souche en rivalité contre Israël. Ces deux de l'autre vont procéder deux rivalités. Amon et Moab. Dans l'histoire contemporaine, et peut-être même dès le temps post-biblique, comme on a l'habitude de dire, c'est difficile à diagnostiquer de qui s'agit-il, les Moabites, les Ammonites, mais dans toute l'histoire biblique, on s'aperçoit à quel point cette revendication d'identité contre la lignée d'Abraham, venant de Lot, Amon et Moab, a été importante. Elle est d'ailleurs encore forte, vivace, elle travaille, bien que clandestinement, bien que souterrainement. C'est pas tellement notre sujet aujourd'hui. Et beaucoup d'aspects des problèmes contemporains de l'interpellation à Israël contemporain viennent aussi du côté de Amon et de Moab. Enfin, j'en dis pas plus, mais si ça vous intéresse, on pourra prendre des parenthèses à la fin de l'esprit. Ça, c'est au niveau de l'identité Abraham. Et l'autre lignée, c'est celle des adversaires. Et c'est celle des antagonistes. Et donc, chaque personnage de l'histoire d'Israël est accompagné, semble-t-il, de deux faux frères qui l'accompagnent. Un, c'est l'approximation d'identité qui s'éveille en rivalité. L'autre, c'est l'antagoniste radical. Et au niveau d'Abraham, il s'agit de Nimrod. Je vais rappeler très brièvement la problématique Nimrod-Abraham. La Torah nous parle de Nimrod, vous le verrez dans les généalogies qui sont dans le chapitre 10. En nous disant qu'il était éberu de la lecture de Rashi. Et de Midrashim, qui sont la source de Rashi, en disant de Nimrod qu'il était le révolté devant Dieu. Le mot de Nimrod, d'ailleurs en hébreu, signifie le révolté, c'est la racine marade. Et je vais essayer très rapidement de vous situer le profil de cette antagonie entre Nimrod et Abraham, parce qu'effectivement, le principe de l'opposition de Nimrod à Abraham va traverser toute l'histoire jusqu'à nous. Et vous allez voir énormément de lignées de rivalité se mettre en place. Celle dont nous allons nous occuper assez rapidement, c'est Ésaü face à Jacob, ce qui est le centre de notre parachat. À propos d'un morceau de verset, encore une fois, sur ce que la Torah dit de Nimrod au chapitre 10 dans les généalogies, Baptéhi, Vayim, Zeshit, Mamarto, Babel. Le commencement de son empire fut Babel, Nimrod. Et le Midrash nous situe Nimrod comme étant le roi de Babel du temps d'Abraham et qui avait décidé de jeter dans la fournaise la famille d'Abraham. La famille d'Abraham, c'est-à-dire les Hébreux de ce temps. Et vous vous rappelez de la liste qu'ils ont eue la semaine dernière. Et peut-être que j'ouvre une petite parenthèse. Et pourquoi, alors que déjà en ce temps-là, les contenus de l'histoire étaient importants, difficiles, tragiques, pour le sort de l'Israël naissant, pourquoi semble-t-il, dans la mémoire traditionnelle, c'est rejeté un peu dans la préhistoire. Je veux dire, au fond, lorsqu'on analyse de façon suffisamment aiguë ce que les Midrashim nous disent du conflit Nimrod d'Abraham, Babel, l'Empire, avec l'identité Abraham, c'est-à-dire une identité hébraïque naissante, sortant de son exil, et cette opposition radicale qui aboutit à la fournaise d'Urkazdim, c'est-à-dire par les analogies que nous avons de notre expérience au four crématoire, pourquoi ça a été, semble-t-il, oublié? Est-ce que j'ai bien posé la question de façon suffisamment claire, de la même manière d'ailleurs, que toutes les convulsions agoniques, si j'ose dire, qui ont accompagné la sortie de l'Égypte, étaient finalement extrêmement estompées? On parlait plus des massacres des croisades, on parlait plus de l'Inquisition, et puis dans le temps récent, on a vu que les Midrashim disaient des choses extrêmement analogues à ce qui s'était passé au temps des nazis, au temps de la sortie de l'Égypte. Pourquoi ces choses-là sont rejetées, semble-t-il, dans une mémoire aussi sûre que la mémoire juive, la mémoire d'Abraham, comme le dirait je ne sais pas qui, semble être jetée à la préhistoire. Qui aurait une réponse à proposer? Pardon? J'entendais ce que tu dis, mais... De toutes les façons, les promesses ne se sont dévoilées de plus en plus explicitement que parce qu'il s'agit de l'identité qu'elles concernaient, et cette identité est déjà en jeu, est déjà en question, est déjà en péril, à ce moment-là, de la même manière. C'est-à-dire la menace de Nimrod contre Abraham en son temps est aussi grave que la menace de Pharaon contre les Hébreux d'Égypte, que la menace de Torquemada en Espagne ou de Haman au temps de Mardochée, ou de Hitler de notre temps, c'est pas fini. C'est aussi... Moi, le principe dans un monde qui l'explique, c'est que il y a des stades irréversibles. Elles sont récapitulées dans une allusion dans le Midrash. Ils sont les stades. Ils sont récapitulés dans une allusion dans le Midrash. Par le fait que ça ne concernait encore que l'histoire de l'individu. Pendant le temps de Avot, pendant le temps des patriarches, chaque identité d'Israël se préparant à être et à devenir Israël est encore à l'échelle individuelle d'une personne, chaque fois. Vous comprenez bien. La Torah a dévoilé explicitement cette carte d'identité de destinée, si j'ose dire, lorsqu'il s'agit du peuple, de la collectivité, d'Israël en tant que peuple. Donc les deux principes vont ensemble. C'est-à-dire ce qui est très 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 ancien est récapitulé parce qu'il y a eu une sortie irréversible. Et finalement, le modèle de modèle, c'est au niveau du récit de la Torah, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Mais nous avons en préfiguration le modèle de modèle du modèle dans l'histoire des patriarches. Mais ça va depuis le commencement. Au fond, c'est toute cette équation de Caïn et Abel remodifiée par l'intervention de Nadine et de Chet qui se développe de plus en plus. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair parce qu'on embrasse autre chose à la fois.
C'est-à-dire qu'on pourrait commencer aussi par le génocide de la dernière guerre.
Exactement. C'est-à-dire que, pas commencé,
oui,
mais
enfin.
Mais quoi que l'on soit, resterait cela. Il y a eu une vigilance de la mémoire qui probablement n'est passée que dans de très rares lignées. Et c'est pas par hasard que c'est surtout les auteurs kabbalistes qui, à travers ces 2000 ans, nous ont raconté à l'avance ce qui risquait d'arriver en s'appuyant sur ce qui était déjà arrivé. Je citerai en particulier un livre qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai commencé à l'étudier, il y a très longtemps, c'est le Chesed l'Abraham, qui décrit, du Rav Azoulay, qui décrit ce qui est arrivé au temps de la Shoah, en s'appuyant d'ailleurs sur des sources qu'on retrouve chez le Ramak, de façon tellement évidente, qu'on se demande, on pourrait se demander d'où c'est ça. On se demande à posteriori, mais c'est comme ça que c'est arrivé. C'était un risque. A priori, il n'y a pas de fatalité, mais quand ça arrive comme ça. Et bien, finalement, il n'y a pas de mystère. C'est cette mémoire du Midrash qui savait déjà cela dans les problématiques, les occurrences premières. Et je reviens donc à Nimrod vis-à-vis d'Abraham. Le mot de Nimrod, je vous disais, c'est le révolté. Or, révolter contre quoi, explique le Midrash très clairement, j'ai la tentation de vous donner le verset, d'ailleurs je vais vous le donner tout à l'heure, vous verrez surtout Rashi, révolter contre Dieu, contre le Créateur. il n'est pas satisfait du créateur. Alors il se révolte contre lui. En fait, une analyse un peu plus fine nous montre que le point de départ de la vocation d'Abraham est la même insatisfaction. Mais elle n'implique pas la même conséquence. C'est-à-dire, en fait, Abraham aussi commence par être radicalement insatisfait. Mais de quoi? De l'état du monde. Cette insatisfaction de l'état du monde chez Nimrod a pour conséquence une révolte contre le Créateur. Alors cette même insatisfaction de l'état du monde a chez Abraham pour conséquence devenir le serviteur du projet du Créateur. Le diagnostic existentiel, l'expérience existentielle est la même apparemment, mais le diagnostic est radicalement différent. Ce qui fait que devant ce problème, comment se mesurer à la perception que nous avons de l'état du monde, il n'y a que deux voies possibles, V.E.S. Celle de Nimrod, c'est la révolte contre le Créateur. Celle d'Abraham, à partir de la même expérience, je reviendrai sur cette notion d'insatisfaction, c'est de porter le diagnostic que l'état du monde ne correspond plus au projet du Créateur et de se mettre au service du projet du Créateur pour restaurer l'état du monde. Mais et c'est pourquoi le Midrash a rassemblé dans la même équation Nimrod et Abraham. En particulier, un des Midrashim signale que, sous cette forme même, que l'échec de Lot a été que pendant très longtemps, il a hésité entre le chemin de Nimrod et celui d'Abraham, et qu'il n'a jamais décidé. En particulier, son voyage à Sodome et Gomorre, c'était la pointe de cette hésitation. Est-ce qu'il faut être comme Abraham ou est-ce qu'il faut être comme Nimrod? Voilà, je crois que j'en ai dit l'essentiel. Et c'est le principe des empires. Et que nous avons là à l'origine, le premier empire étant celui de Babel, le deuxième étant celui de Perse, le troisième étant celui de Grèce, le quatrième étant celui de Rome, et nous sortons de ce quatrième empire. Et chaque fois, la sortie d'un de ces empires, dont le principe de l'attitude de Nimrod, c'est le catastrophe de la fournaise de Christ. Vous voyez comment ça se fait le chiffre. Bon, ça c'était la première génération, j'avance rapidement. À la deuxième génération, l'approximation de l'identité qui s'est rejoint en réalité, c'est Ishmaël, on est au niveau de Yitzhak, et l'antagoniste, celui qui dispute l'héritage de Isaac, c'est Abimelech. Peut-être qu'on pourrait avoir là le profil du premier palestinien, entre guillemets, anti-israélien, entre guillemets, de l'histoire, c'est Abimelech. Vous retrouverez les querelles concernant les puits, tous ces récits que nous avons dans l'histoire, entre Abimelech et Israël. Il ne s'agissait pas de puits de pétrole, mais c'est tout juste. Et puis, à la troisième génération, et c'est là que notre sujet, l'approximation d'identité qui s'est rejoint en rivalité, de nouveau, c'est Ésaü. Et l'antagoniste radical, celui qui veut supprimer, détruire, c'est Laban. On voit que toutes ces rivalités, de ces deux sortes, nous accompagnent à travers l'histoire. Mais dans ces récits, la Torah nous met en évidence l'ordre attendu. Et ce sont des rivalités de nature différente. Lorsque elles s'unissent dans un même faisceau, apparaît l'identité d'Amalek. Amalek récapitule ces six rivalités en y ajoutant son équation propre. Et, principe important, Amalek en tant que tel apparaît chaque fois qu'il y a une fin de vision de l'identité d'Israël dans les empires successifs. Voilà, vous avez là, très grosso modo, tous les personnages qui nous accompagnent. Ça ressemble beaucoup à quelque chose qui est dans la littérature française, mais je ne sais plus quoi. On est toujours accompagné par des personnages plus ou moins ombreux, ombrageants. Ombrageux. Bien. Alors, ces deux thèmes se relient à la racine. Et donc cet éclatement de l'identité de l'Abraham va faire exister des parcelles de cette identité, si j'ose dire, qui s'érigent en rivalité et dans ces deux polarités. Soit encore une fois l'approximation d'identité qui réclame l'héritage d'Israël, soit l'antagoniste absolu qui veut détruire cet Israël. Et lorsqu'encore une fois les deux dimensions se mêlent, et s'unifie dans leurs trois niveaux, chacune, alors apparaît ce personnage qu'on appelle Amalek, qui est l'ennemi irréductible. Bon, ça peut nous servir, effectivement, de clé de diagnostic pour énormément de situations quant à l'identité d'Israël, aussi et surtout dans le temps contemporain, qui me semble assez important. Alors nous en arrivons à la rivalité Ésaü-Jacob. Qu'est-ce qui nous a semblé jusqu'à présent, d'après le récit, c'est que ces deux enfants sont nés jumeaux et que tout de suite, il est indiqué qu'ils seront en lutte et qu'ils seront séparés. Je vais vous donner le verset qui l'a puni et je reviendrai sur la définition de cette problématique d'opposition à la racine. Voilà, vous avez le verset 23 du chapitre 25. Lorsque Rivka, ne sachant pas ce qui se passe en elle, au moment même de la gestation de cet enfant attendu, va consulter Dieu, Dieu vous dit, verset 23, comme Guimel, vous êtes donc toujours à la page 115. Vous voyez Hachem là, et Dieu lui dit, il y a deux nations en ton sein, ou et deux peuples, vous pouvez traduire peuplade, si on réserve le mot de peuple pour traduire le mot hébreu de Ham, Léon, c'est quand même un peuple. Et je vais donner très rapidement la différence de ces notions. Le Ham, c'est la notion de peuple indépendamment de la filiation ethnique. On peut faire peuple lorsqu'on est avec l'un avec l'autre. Ham se rattache à la racine Im, ceux qui sont avec. Je ne sais pas si en français, en sociologie, il y a un terme plus précis, scientifiquement parlant, pour cela, mais l'idée est claire. Ceux qui sont ensemble font peuple ensemble. Tandis que l'homme, il y a la relation de la filiation ethnique, parce que ça se rattache à la racine Im, la mère. Et que vous avez aussi dans le mot le doublé Oum, en arabe, ce mot existe. En arabe, ça signifie la nation. Mais en hébreu, ça signifie le peuple. Et le mot qui signifie la nation, en hébreu, c'est Goy. Gimel, Vavu. Ça veut dire le peuple avec ses institutions. Ça s'appelle un Goy. Lorsque le peuple a ses propres institutions, il est appelé nation. Alors, l'homme, humain, ça c'est le peuple, plutôt que la nation. Donc, deux nations, deux peuples, Numéa et Riparelli, dès que tes entrailles se sépareront, et un peuple triomphera de l'autre. On ne dit pas a priori lequel. La règle qui en est tirée par le commentaire, surtout du Talmud, consiste à dire si un triomphe, l'autre, quel est le contraire de triomphe, l'autre est dans l'échec. Et réciproque. C'est-à-dire, on ne peut pas être tous les deux triomphants ou tous les deux en échec. Il y a là donc une dialectique de force qui demande à être définie, à être précisée. Alors, pour tout de suite avoir un aperçu sur le diagnostic historico-cosmique, si j'ose dire, de la rivalité entre la chrétienté et Israël, et il ne peut pas être triomphant à la fois. Et il y a une source dans le Talmud qui dit on ne peut pas dire que Rome et Jérusalem sont toutes les deux détruites, ou que Rome et Jérusalem sont toutes les deux construites. Où Jérusalem est construite et Rome est détruite, où Rome est construite et Jérusalem est détruite. Nous sortons de l'histoire où c'était Rome qui était construite et Jérusalem détruite. Alors, vous allez me dire, mais Rome est toujours construite. Donc, il y a des cadavres qui ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Je ne sais pas comment expliquer ça. Enfin, on reviendra sur le sujet. Mais je crois que c'est bien évident, pas la peine de l'analyser trop longuement. Que, en tout cas, la civilisation romaine se connaît comme étant la civilisation romaine, c'est-à-dire à travers toutes ces étapes, dont la chrétienté est une des plus importantes, la civilisation occidentale se connaît comme étant en crise grave. C'est à ce moment-là que Israël réapparaît de son exil romain, sort de sa clandestinité, de la Mésopotamie contemporaine. Dans Ur-Kasdim se trouvait, vous allez me dire en Allemagne, mais ça revient au même. Vous avez entendu parler du Saint-Empire romain-germanique, ça va ensemble. Alors je referme la parenthèse. D'ailleurs, à ce moment-là, Rome et l'Allemagne étaient, comme vous le savez, axés sur le même axe, comme on disait à l'époque. Ça arrivait jusqu'au Japon. Bien. Voir ce qu'il nous a annoncé dans le sens. Alors, de quelle nature est cette rivalité, de quelle nature est cette problématique. Alors, je l'aborde d'abord très rapidement par un aperçu liminaire qui nous dit ceci. En s'appuyant sur la carte d'identité renouvelée au début de la paracha, et de Yitzhak d'un côté, fils d'Abraham, et de Rivka de l'autre côté, avec une accumulation de détails que nous sommes censés déjà connaître. Rivka, Bet Betuel, Aharami, Mipadan Aram, Machot, Lavan, Aharami, avec une accumulation de cette épithète, l'araméen, représente une impossibilité, une impasse pour l'issue de ce mariage entre Isaac et Rebecca. Dans le texte précédent, on a appris que s'il existe une femme possible pour Isaac, ça ne peut être que dans la famille d'où Abraham était sorti. Or, miracle, elle existe. C'est le nom de la fille de Betuel, sœur de Laban l'araméen, sœur de Laban l'araméen. Elle est chargée de cette clipa dont je parlais tout à l'heure. Elle sort de cette clipa qui est précisément ce dont l'identité hébraïque devait se débarrasser pour se retrouver elle-même. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et donc, il y a une collision de cartes d'identité, si je dis. Yitzhak ben Abraham, cet effort inouï qui fait que le tzaddik commence à émerger de l'histoire humaine. Pour qu'Abraham sorte de Abraham, c'est toute l'histoire précédente, et c'était pas rien comme effort d'engendrement. Il fallait aussi traverser l'épisode Nimrod. Enfin, et puis finalement, pour que Abraham engendre Yitzhak, c'est tout le récit précédent. Et vous savez à quel point la naissance d'Yitzhak est comme si elle était un miracle absolu. Vous remarquez ce qu'ont déjà étudié d'autres niveaux de lecture, que je n'ai pas abordé le niveau des valeurs. Quelle valeur représente Abraham, quelle valeur représente Yitzhak, pour ne pas voir trop de thèmes à la fois. Au moment où je vais suivre cette analyse proprement historique, familiale, de l'histoire de la famille des Avot. Et donc, voilà, Yitzhak ben Abraham, c'est le tzaddik par excellence. Et il ne peut avoir comme Batzoug, comme autre que soit pour l'engendrement de l'identité d'Israël, que Rivka, qui est une tzaddeket. Ça, nous le savons déjà avant, pendant et après tout ce récit, mais qui porte avec elle cette, j'ose pas dire ce mot de hérédité, mais c'est le seul que, dont je peux disposer, cette hérédité araméenne qui est derrière elle. Abraham était sorti de cela. Mutation irréversible. Comment continuer la lignée? Eh bien, on ne peut pas prendre de mère future d'Israël parmi l'identité humaine de l'échec que la lignée d'Abraham doit remplacer. Doit remplacer, c'est pas exactement le terme, que la lignée future d'Abraham devenue Israël doit essayer de sauver, de transfigurer. Il faut donc revenir à la source d'où était sorti Abraham. Mais de cette source d'où est sorti Abraham, Abraham seul est sorti. Et par conséquent, arrive un miracle encore plus considérable que la sortie d'Abraham de l'identité Aram, et qui est celle que Rivka existe et qu'elle est Tzadoket. Tzadoket, c'est le féminin de femme. Okay? Et voilà que là, on est dans une impasse, on est complètement bloqué. Parce que l'enfant qui serait engendré ne peut pas naître, parce qu'il serait monstrueux absolument. Tout entier Tzadik, du côté de Yitzhak, et tout entier Racha, Klipa, Touma, du côté de la famille de Rivka. C'est l'intention du texte, dans cette accumulation, de détails biographiques que l'on connaissait déjà. On savait que Rivka était la fille de Betuel, on savait qu'elle était donc la sœur de Laban, et que Betuel était araméen, que Laban était araméen. Cette accumulation, donc, a une intention claire que la Midrash nous explique. C'est bon, clair jusque-là? Or là, nous sommes devant un problème anthropologique depuis le début du récit de la Bible, important. C'est que tout un chacun, finalement, à quelque niveau que ce soit, est un peu dans ce cas. Parce que tout homme, toute femme, enfin tout être humain, est aussi fait de deux côtés, le côté du bien et le côté du mal, le Yetzer Tov et le Yetzer Ra. Mais, si vous voulez, nous avons le même problème à l'échelle homéopathique. Ici, le problème apparaît dans toute sa stature. Un enfant qui serait tout entier tzaddik, parce qu'il est fils d'Isaac, fils d'Abraham, mais il risquerait d'être en même temps tout entier Rachar, parce qu'il est fils de Rivka, fille de Betuel, fille de la Klipa de Aram. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je doute quand même, non, ça on verra plus tard. Je ne verrai pas trop jamais. Et si les éléments sont bien en place, alors on assiste à l'intervention de la stratégie divine. Quelle est la solution? En principe, il n'y a pas de solution. Il y a stérilité absolue, blocage. On risque de mettre au monde un monstre. C'est clair jusque-là? La stratégie de la Providence, c'est que deux jumeaux vont naître. On va séparer la discussion. Alors, ce dont il faut garder, c'est de croire qu'il y avait une fatalité a priori, un destin a priori, qui serait de Jacob le tzaddik et qui serait de Esav le racha. Et nous sommes là pour le comprendre par énormément d'analyses dans le texte, mais surtout par la position de Isaac, qui semble-t-il protège jusqu'au bout Esaü. Isaac est le tzaddik. Il est le tzaddik de la Midat Djoum. Par conséquent, on n'a pas mieux comme juge, comme Dayan. Okay? Et pourtant, il avait faim de fermer les yeux. Il avait les yeux un peu plus de fermer, lequel vous ne voyez plus. Okay? Début du chapitre 27, qu'on verra tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, semble-t-il, envisager jusqu'au bout l'éventualité que Esav se rachat. Parce qu'il connaît une éventualité d'un Esav tzaddik. Est-ce que c'est clair jusque-là? Non. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Pas plus fort, les ans sont la cause. C'est ça, mais c'est notre problème, c'est notre problème. Je reviens sur ce que je disais. C'est-à-dire que nous avons Yetzer Tov, Tzadik dans la lignée du Tzrak, Rachar dans la lignée de Rivka. C'est bien clair. C'est le terme même du. Ce que j'ai ajouté, ce que nous étudions maintenant, c'est qu'il faut absolument évacuer l'hypothèse qu'il y aurait une fatalité a priori. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Premier indice que je vous ai donné, l'attitude de Yitzhak. Est-ce que Yitzhak ne connaît pas ses enfants? Est-ce qu'il ne sait pas que Esaü est Rachar et Jacob est Tzadik? Pourquoi il veut bénir Esaü et pas Jacob? Nous sommes déjà en plein dans le sujet. Alors, je reviens un peu en arrière, et peut-être que je dévoilerai des choses pas trop familières, pas suffisamment familières, mais qui sont importantes à comprendre, parce que c'est un principe très général. Bien sûr, il y a une hérédité des conséquences à travers le temps, mais il n'y a pas une hérédité des Neshamot, il n'y a pas une hérédité des consciences. Bien sûr, ce qui s'est passé dans les générations précédentes pèse par les conséquences sur les générations suivantes. Mais il n'y a pas de fatalité a priori qui pèse sur la naissance des hommes. C'est clair. C'est l'enseignement pshat de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est très compliqué. Mais c'est un principe qu'il faut absolument comprendre. Je vais aborder peut-être un niveau un peu plus mystérieux. En me basant sur une Gemara qui se trouve dans la Masoret Rosh Hashanah, nous ne savons pas ce qui s'est passé avant notre naissance pour nous. Nous ne savons pas. Pourquoi? La Gemara le dit très clairement, parce que Dieu a décidé qu'il fallait oublier et commencer à zéro au commencement d'un chemin qui n'est pas le commencement absolu de notre histoire. Qu'est-ce qu'il y a avant notre naissance? Pour nous, nous ne savons pas. On a oublié. Vous connaissez ce midrash qui dit que au moment de la naissance, il y a un ange qui vient fermer les lèvres de l'enfant, dont les commissures de lèvres. Vous connaissez ce midrash? Ce thème de l'oubli est très important. Donc, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles il faut oublier. Si on a quelque chose à arranger dans le programme de sa destinée, j'ai pas dit destin. Et si on sait exactement de quoi il s'agit, alors c'est comme si on jouait à la roulette avec une martingale. Hein? C'est clair. Pour qu'il y ait, vous avez compris l'image. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une effectivité à l'option du mérite, il faut que j'ignore moi-même ce que j'ai à faire. C'est clair? Ou en d'autres termes, bifurqué dans les parenthèses. Est-ce que c'est clair jusque-là? Il y a, dans la mesure où effectivement, je prends en fait cette définition, telle partie de mon existence, l'existence terrestre qui a commencé à ma naissance, doit être une, en quoi que ce soit une épreuve, alors il faut que j'oublie ce qu'il y a eu avant, sinon l'épreuve ne serait pas. Comment on dit? Non, pas logique. Ce n'est pas valable. Ce n'est pas juste. C'est un bout d'une justice absolue. Comme disent nos maîtres, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a quand même éclairés en nous donnant notre carte d'identité qui est la Bible. Et remarquez que ça ne change pas grand-chose. Et même quand on sait, ça n'aide pas tellement. Il faut savoir, mais ça n'aide pas tellement. Est-ce que c'est clair? Par conséquent, le fait que nous ne savons pas ce qui se passe avant notre naissance est légitime. Je schématise beaucoup pour aller. Ceci dit, il y a quelque chose que notre ami nous dévoile comme ça, en un petit clin d'œil, c'est que nous avons choisi d'être ce que nous allons être. Par conséquent, chacun est ce qu'il est. Il n'y a pas de fatalité. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Pourtant, c'est simple ce que je dis là. Pardon. Quoi, il y en a, c'est qu'il y en a très peu qui ont le courage d'arriver plus à les avancer. Mais c'est vous qui m'avez fait ça. Une idée? Pourquoi c'est dedans? Ça veut dire que ce ne sont que les descendants d'Abraham qui ont décidé de naître comme descendants d'Abraham. Pour vous, qu'est-ce qu'on est? C'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon. Alors, la communication entre ce qui est caché en haut avant et notre monde à nous a été brouillée. Elle fonctionne clairement quand le temple est construit. Quand le temple est détruit, les canaux de communication sont brouillés. Ce qui fait qu'on est en plein chaos d'état civil. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que les grandes lignes de direction d'identité ne soient pas claires. Ça veut dire qu'il peut y avoir. Et je dis ça vraiment, mettez ça en toute. Comment on dit ça en français, j'ai oublié. Mettez ça vraiment. Entre parenthèses, 77 fois. C'est-à-dire, il peut y avoir des descendants d'Abraham qui naissent ailleurs, parce que les canaux sont. Mekoukali. Il peut y avoir des pas descendants d'Abraham qui naissent chez nous. Alors l'histoire est aussi un tri. Un de vous. Aussi, en plus. Okay. Est-ce que c'est clair? Mais a priori. Chacun n'est que ce qu'il est à chaque stade où il en est. Je veux dire comment j'avais l'habitude d'expliquer cela. Certains d'entre vous reconnaîtront cette image. Il existe en France, je crois d'ailleurs dans tous les pays, une revue qu'on achète quand on voyage et qui s'appelle Sélection. Ça vous dit toujours? Alors, comme je voyage beaucoup, ça m'arrive de le dire. Et même ça pique qui revient très souvent dans cette revue, l'être le plus extraordinaire que j'ai connu. La vraie réponse, d'après la Torah, c'est pour chacun, c'est moi. Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? Non, je parle pour tout le monde. Ça veut dire, fondamentalement, si on demande à quelqu'un qui tu voudrais être si tu n'étais pas ce que tu étais, il répondrait ce que je suis. Non, mieux. Non, en mieux. Personne ne veut être quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ça, on a tout notre programme, grâce aux sélections du gris d'Arbigé. Et ce qui m'a toujours étonné, bon, ça c'est la sagesse des nations, c'est qu'ils ont jamais donné cette réponse. Ils ont toujours cherché quelqu'un d'autre, vous remarquez. C'est comme ça que commence l'idolâtrie. Bien, vous connaissez l'histoire qu'on raconte à propos de Soucia, qui est un des grands chassidim. Donc, Soucia avait l'habitude d'enseigner à ses élèves. Quand il arrivera au jugement dernier, on ne lui demandera pas pourquoi il n'a pas été mon cher Abeni, on lui demandera pourquoi il n'a pas été Soucia. Vous avez compris le secteur. En fait, il a été. Je me demande pourquoi il avait tellement de la modestie. Alors.